Aujourd'hui, France Inter fête les 60 ans de Stax Records.
What time is it? Raise your fist together.
On a tous quelque chose à dire, mais certains ne sont jamais entendus. Il y a plus de 7 ans, les gens de Watts ont fait front et ont exigé d'être entendus. Un dimanche d'août dernier, au Colisée de Los Angeles, plus de 100 000 Noirs se sont rassemblés pour commémorer ce moment de l'histoire américaine. Pendant plus de 6 heures, le public a écouté, vibré, chanté, dansé et crié le verbe vivant dans une expression pleine d'émotion de l'expérience noire. Voici le film de cette expérience et de ce que certains ont à dire.
Aujourd'hui, dans le cadre d'une journée spéciale sur France Inter pour les 60 ans du label Stax Records, Affaires Sensibles revient sur la 7e édition du Watts Summer Festival, surnommé le Woodstock Noir, bien plus qu'un simple concert. Autour d'un événement, deux pôles. D'un côté, les émeutes de Watts, le quartier noir de Los Angeles, qui en août 1965, pendant une semaine, transforme la ville en champ de bataille. De l'autre, 7 ans plus tard, un incroyable concert organisé par le label Stax avec quelques-unes des stars les plus célèbres de la musique noire américaine de l'époque. Entre ces deux pôles, 7 ans s'écoulent donc, pendant lesquels s'opère un glissement que le festival Woodstock illustre avec éclat. De 1965 à 1972, la lutte des Afro-Américains pour la liberté et la justice évolue. La conquête des droits civiques est remplacée par la dénonciation de l'exclusion économique et sociale, la stratégie non-violente est supplantée par l'activisme du Black Power et le mouvement intégrationniste se transforme en affirmation de l'identité noire américaine. Le temps d'une émission, nous allons revenir sur cette période charnière où se mêlent histoire politique et culturelle, événements tragiques et aventures artistiques. Une chronique du Black Power, avec en fond sa bande son, dont nous poursuivrons l'exploration en seconde partie d'émission avec notre invitée Caroline Roland-Diamond, historienne, auteure du livre intitulé Black America, publié en 2016 aux éditions La Découverte. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter.
This is a beautiful day.
Voici un jour magnifique.
It is a new day.
C'est un jour nouveau.
It is a day of
C'est un jour de conscience pour les Noirs.
It is a day of
C'est un jour où les Noirs s'occupent des affaires des Noirs.
Today,
aujourd'hui, nous sommes
together.
Réunis. Nous sommes unifiés et sous un commun accord. Car nous sommes ensemble, nous avons du pouvoir et nous pouvons prendre des décisions. Aujourd'hui, nous avons au programme du gospel, du rhythm and blues et du jazz. Ce ne sont que des appellations. On sait que la musique, c'est la musique. Tout notre peuple a une âme. Notre expérience détermine la texture, le goût et le son de notre âme.
Dimanche 20 août 1972, Memorial Coliseum, immense stade de Los Angeles sur la côte ouest des États-Unis. C'est le début de l'après-midi ce jour-là, quand le révérend Jesse Jackson, coupe afro, chemise au motif ethnique et collier à la mode, prend la parole pour inaugurer l'événement. Comme chaque été depuis 6 ans, se tient dans la ville de Watts Summer Festival, en hommage aux émeutes qui ont enflammé le quartier en 1965. Face au révérend, dans les gradins, plus de 100 000 Afro-Américains, des jeunes, des vieux, des enfants, en couple, en famille ou entre amis. Le stade est comble, et la scène, au milieu d'une pelouse laissée vide par la sécurité, paraît bien isolée face à la foule qui l'entoure. L'ambiance est joyeuse, festive. À l'image de Jesse Jackson, les jeunes affichent le style de l'époque. Coupe afro pour les garçons et les filles, vêtements multicolores, vestes en cuir, pantalons pattes d'éléphant. Tout ce beau monde s'agite en déhanchés généreux sur la musique qui les rassemble. Car si ce Watts Summer Festival est différent des précédents, s'il y a autant de monde ce dimanche 20 août 1972, c'est que pour cette 7e édition, le label Stax Records a proposé d'organiser un concert de plus de 6 heures. Au programme, toutes les stars, tous les groupes qui ont fait la légende de la maison de disques sont ainsi prévus. Rufus Thomas, The Bar Keys, The Staple Singers et enfin et surtout la légende Stax Isaac Hayes. Billet d'entrée, $1. Un prix réduit pour la bonne cause. Une cause que le label Stax a épousée depuis 10 ans, sans vraiment s'en rendre compte d'ailleurs, liant son destin à celui de la question noire américaine. C'est à Memphis, Tennessee bien sûr, dans le sud des États-Unis que l'aventure Stax commence. À l'origine, un frère et une sœur, Jim Stewart et Estelle Axton, anciens employés de banque qui lâchent tout pour lancer un label de musique avec les artistes locaux. Jim et Estelle contractent leurs noms respectifs pour créer Stax et se tournent vers la soul des musiciens du coin. Rufus Thomas, Sam and Dave, enfin et surtout une voix hors norme, porte-drapeau du label Otis Redding. Avec David Porter et Isaac Hayes à l'arrangeur, le son Stax s'impose, brut, pur et fait concurrence à son meilleur ennemi du Nord, la Motown de Detroit. Tant et si bien que Memphis gagne bientôt le surnom de Soulville. Dans le Sud, victime de la ségrégation au début des années 60, le studio de Stax prend des airs d'utopie. Oui, là, dans la ville d'Elvis Presley, le blanc qui jouait la musique des Noirs et faisait danser les deux, chez Stax, blanc et noir jouent, créent et travaillent ensemble. Et quand 10 ans plus tard, ce dimanche 20 août 1972, Stax propose d'organiser ce concert exceptionnel, au-delà de la joie sur les visages, il y a de la gravité dans les cœurs. Car on célèbre aujourd'hui une plaie toujours ouverte, celle d'une lutte qui dure encore 10 ans après et qui a commencé par une terrible étincelle, les émeutes de 1965.
Décidément, la conjonction astrale, pour parler comme les marchands d'horoscopes, n'est guère bénéfique actuellement à nos amis américains. Ils ont sur les bras l'affaire vietnamienne, les voici à présent de nouveau secoués, cette fois sur le plan interne, par les luttes raciales. Ces luttes qui, d'une façon quasi cyclique, revendiquent les honneurs contestables de l'actualité. Aujourd'hui, c'est Los Angeles, avec toujours à l'origine les mêmes motifs épisodiques et futiles, des incidents de voirie et de petite police, qui tourne rapidement à la bataille rangée et libère les vieilles rancunes raciales.
Mercredi 11 août 1965, Watts, Los Angeles. Dans ce quartier où vivent 350 000 Afro-Américains, ce soir-là, l'un d'entre eux, un jeune noir de 21 ans, Market Fry, rentre chez lui en voiture. Au chômage, après avoir interrompu ses études secondaires, il vit chez sa mère. Dans le ghetto de Watts, la canicule et l'ennui s'abattent sur les taudis insalubres où parfois manque même l'eau courante. Au moment d'arriver à son domicile, il est arrêté par une patrouille de police. Les agents le soupçonnent de conduite en état d'ivresse. L'intervention des policiers est brutale et surtout, elle se déroule sous les yeux de la mère de Marquette qui intervient pour le défendre. Les deux sont arrêtés. Témoins de la scène, des habitants du coin se réunissent autour des policiers. Rapidement, des premières échauffourées éclatent, insultes, bousculades, jets de pierre. Les agents procèdent à quelques arrestations et repartent au commissariat. Pendant ce temps, l'information de l'incident se propage dans tout le quartier. La foule dans les rues augmente et après le départ des forces de l'ordre, elle s'attaque aux automobilistes blancs. Lorsque les policiers reviennent sur les lieux pour intervenir, ils sont de nouveau pris pour cible. Les émeutes de Watts commencent. Le déferlement de violence est aussi soudain qu'impressionnant. Dans la nuit du 11 août, le lendemain, puis la nuit qui suit, des milliers de Noirs américains sortent dans la rue, renversent les voitures, s'attaquent aux vitrines des magasins, aux bâtiments. En quelques heures, les forces de l'ordre sont submergées. En face, les jeunes Noirs s'agitent autour des feux et scandent un slogan en forme de colère trop longtemps retenu. Impasse absolue, burn, baby burn. Le ciel de Los Angeles se coiffe alors d'un nuage sombre, les incendies se multiplient et les pompiers sont eux aussi attaqués lorsqu'ils arrivent sur place pour les éteindre. Les bâtiments s'effondrent, laissant des trous béants de débris et de cendres. Le courant est coupé et c'est tout un quartier de la mégalopole qui plonge dans le noir. « D'abord constitués de jeunes, ce sont bientôt des habitants de tout âge, des femmes et des hommes qui sortent. Armés de pierres, de briques et de cocktails Molotov, les émeutiers pillent les magasins, puis s'attaquent au commissariat et aux armureries. Ils s'arment, oui, de revolvers et de fusils. Les échanges de tirs avec la police se multiplient et les émeutes de Watts comptent leurs premières victimes. Au bout de 2 jours et de 2 nuits de violence, la police de Los Angeles est complètement dépassée. Par moments, ce sont près de 40 000 émeutiers qui sont dans les rues. Le chaos est total, la situation incontrôlable, et au 3e jour, la garde nationale est envoyée.
Le commandant de la garde nationale donne quelques recommandations aux hommes qui vont partir à l'assaut. Surtout, ne restez jamais isolés. Tout le monde doit savoir où se trouvent les voisins. Tout le monde doit partir en groupe. En aucun cas, aucun prétexte ne doit vous permettre de rester isolé. Fixez les baïonnettes au canon. Avancez en groupe lorsque les baïonnettes auront été fixées au canon. Quelques véhicules légers appartenant à la division blindée partent en direction des pâtés de maison tenus par les Noirs, cependant que des hélicoptères décollent pour partir en reconnaissance et survoler la région occupée par les insurgés.
La révolte dépasse bientôt le seul quartier de Watts et s'étend à Hollywood au nord et Long Beach au sud. Les 15 000 hommes de la garde nationale établissent un cordon de sécurité tout autour du noyau central des émeutes. Sur les écrans de télé du monde entier, les États-Unis affichent l'image d'un pays en pleine guerre civile. Les tanks qui parcourent les avenues de Los Angeles, les hélicoptères qui survolent son ciel rappellent ceux du Vietnam où le pays est engagé. En pleine guerre froide, la principale puissance mondiale donne à voir le visage de la colère de ses ghettos. Puis c'est au quartier noir de Chicago et de Springfield de s'embraser à leur tour. Au sein de la communauté noire, on se mobilise, les pasteurs tentent, eux, de calmer les émeutiers. Mais rien n'y fait. L'acteur Dick Gregory, une figure active du mouvement intégrationniste, est touché à la jambe pendant les affrontements. Interviewé, il explique que les jeunes s'attaquent au symbole de l'uniforme, celui du LAPD, la police de Los Angeles, coupable à ses yeux des souffrances infligées, des humiliations endurées. En réponse, le chef de la police parle de complot organisé et de population endoctrinée par les leaders noirs. Rentré de vacances en toute urgence, le gouverneur de Californie établit un couvre-feu et prend la parole à la télé.
Les gens ont le droit de poser leurs revendications, mais en respectant la loi. Sinon, ils encourront les rigueurs de la loi.
Then they must be willing to accept punishment for it. And I do think that some of these illegal violations, some of the breakdown in families in the United States...
Il règne ici aux États-Unis un mauvais esprit. Nous, les adultes, ceux qui ont des ménages brisés, donnent le mauvais exemple aux jeunes. Il y a beaucoup à faire pour restaurer la discipline nécessaire à une grande nation.
Au bout de 6 jours d'émeute, le calme revient dans la ville et Los Angeles fait les comptes. Ils sont terribles. 34 morts, dont 28 noirs, 1 millier de blessés, 4 000 arrestations et 40 millions de dollars de dégâts matériels. C'est simple, les États-Unis viennent de faire face aux émeutes les plus sanglantes de leur jeune histoire, avec toujours ces scènes qui surprennent pour un pays comme celui-là. L'armée du salut, par exemple, apporte 3 tonnes de produits alimentaires sous la protection des gardes nationaux pour subvenir aux besoins d'un quartier totalement détruit. Face à cette flambée de violence, du côté du pouvoir et d'une grande partie de la population blanche, les sentiments d'incompréhension et de colère se mêlent. Le président Johnson est sous le choc. Quelques jours plus tôt, le 6 août 1965, il venait de voter le Voting Rights Act, qui redonnait et qui reconnaissait le droit de vote aux Noirs des États du Sud. Après la fin de la ségrégation, officiellement déclarée 1 an plus tôt, l'ensemble des Noirs du pays a retrouvé ses prérogatives de citoyens. Et puis aussi, pourquoi la révolte éclate-t-elle à Los Angeles, souvent citée en exemple pour sa capacité à voir émerger une classe moyenne noire et à faire cohabiter les communautés? Si les médias essaient de présenter les émeutiers comme des marginaux ou des jeunes perdus, on réalise rapidement que 2/3 des Noirs arrêtés pendant les événements ont un emploi et des revenus moyens. Oui, mais voilà, le problème était là, latent. D'ailleurs, un avertissement avait eu lieu 1 an plus tôt à Harlem sur un schéma similaire. Un jeune noir avait été abattu par la police, le quartier s'était soulevé. L'un de ces jeunes est interrogé sur les événements de Watts.
Vous ne croyez pas justement que des incidents aussi violents que ceux qui se sont déroulés à Los Angeles travaillent un peu contre cette cause de l'émancipation des Noirs et que c'est donner des arguments évidemment très forts à ceux qui sont toujours pour la ségrégation et...
Mais vous savez, quand j'entends des choses comme ça, ça me met hors de moi. Parce que c'est un cercle vicieux, enfin... cette situation. Et pourquoi voulez-vous que ce soit toujours nous autres Noirs qui arrêtent ce cirque? C'était pas nous qui l'avons commencé. Et alors, il y a la pauvreté, la discrimination, le traitement d'inégalité à laquelle nous sommes assujettis par la police partout. Alors, après, quand il y a une révolte contre cela, on nous dit, ah tiens, voilà, si seulement vous avez été plus sage, on a été sage depuis 100 ans et on n'a pas vu beaucoup de choses changer.
Et puis une image pour symbole, celle de l'arrivée de Martin Luther King au milieu des ruines de Watts, quelques jours après la fin des émeutes.
Honestly about the police problem. And I made it very clear to him that after talking with numerous people in the Negro community, in the Watts area and all over Los Angeles.
Dr. Luther King dit que le problème à l'origine de l'émeute qui a commencé dans le quartier de Watts et qui s'est étendu sur une superficie comparable aux trois quarts de la ville de Paris est à l'origine un problème économique. Luther King dit qu'il est au courant de la brutalité de la police envers les Noirs et qu'il est temps de donner aux Noirs l'occasion de devenir des travailleurs spécialisés qui puissent être utiles à la nation.
Ce jour-là, en réalité, Martin Luther King est en partie hué par les jeunes du quartier, une manière de confirmer ce qu'avait pressenti le pasteur depuis quelque temps déjà, la simple conquête légale, le seul mouvement des droits civiques, ne suffira pas. Pire, en concentrant la lutte sur la fin de la ségrégation dans le Sud, les acteurs du mouvement créent une sorte de rupture avec les ghettos du Nord et de l'Ouest, pour qui le problème social et économique reste primordial. Lyndon Johnson a beau avoir lancé son projet de grande société et sa guerre contre la pauvreté quelques mois auparavant avec une série de mesures économiques et sociales à destination des plus défavorisés, la situation était depuis longtemps intenable. Pour tous, noirs et blancs, les émeutes de Watts en 1965 deviennent le symbole éclatant du nouveau combat à mener, celui de la pauvreté, des ghettos, de la discrimination et de l'égalité réelle. Sur la scène du Watts Tax, 7 ans après ces terribles émeutes auxquelles l'événement rend hommage, le référent Jesse Jackson ne dit pas autre chose.
On vit peut-être dans un taudis, mais le taudis ne vit pas en nous. On peut être en prison, mais la prison n'est pas en nous. À Watts, on est passé de « brûle, mec, brûle » à « apprends, mec, apprends ». Avant, on était saisi par ce que le blanc possédait. Maintenant, on saisit ce dont on a besoin. On est passé des punaises de lit et des tics de chien au contrôle communautaire et à la politique. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter notre retour chez nous et notre sens propre d'être quelqu'un.
Qu'ont-ils hérité de Watts ? Qu'est-ce que ce contrôle communautaire et politique ? Pour comprendre les mots de Jesse Jackson, il reste à parcourir les quelques années qui séparent la rupture de Watts de sa cérémonie d'hommage. Une période où la non-violence et la volonté d'intégration ne suffiront plus dans la lutte des Afro-Américains. Pour le moment, la saoule endiablée de Rufus Thomas, en short et veste rose flashy, enivre le public qui s'échappe des gradins pour aller danser sur la pelouse.
Let's meet and greet Mr. Rufus Thomas!
Je peux vous poser une question ? J'ai dit, je peux vous poser une question ? Suis-je élégant ? Les gars ! Merci. Les gars ! Vous êtes prêts ? Vous êtes tous prêts ? On y va.
You know how shake a butter boat. I got to see for myself if you got any butter left. Break down to the left, break it down to the right, break it down to the one gonna love tonight.
Vous m'entendez là-bas? Bien, je veux que tout le monde, je ne veux personne sur le terrain maintenant. Quand je vous dis d'aller sur le terrain, alors seulement vous allez sur le terrain. Après, il se pourrait bien que j'aille sur le terrain avec vous.
The soulful funky sounds of the Barcane!
Il a souvent été dit, et dans beaucoup d'endroits, que la liberté est une route peu empruntée par la multitude. Nous aimerions inviter chacun d'entre vous à nous accompagner. Et vous verrez, peut-être, un aspect de la vie que vous n'avez jamais vu avant.
Il a souvent été dit dans beaucoup d'endroits que la liberté est une route peu empruntée par la multitude. Effectivement, Waltz, Stax, les destins liés de la lutte et de la musique, sans le savoir souvent, mais avec conscience toujours, ont emprunté la même route. Alors que dans les studios de Memphis, on enregistre de nouveaux hits, c'est de cette même ville que le 6 juin 1966, un an après les émeutes de Los Angeles, James Meredith décide d'entamer une marche contre la peur à travers le Mississippi jusqu'à Jackson. Meredith est un symbole de la lutte contre la ségrégation. 4 ans auparavant, il avait reçu le soutien de l'armée fédérale envoyée par John Kennedy pour pouvoir entrer à l'université. Le but de sa marche du jour, interpeller les pouvoirs publics sur la lenteur de l'application des droits civiques et accélérer les mesures économiques et sociales en faveur des Noirs. Après un jour de marche, un blanc le blesse gravement par balle. Dès l'annonce de son agression, toutes les associations du mouvement noir se mobilisent. Cependant, des divisions apparaissent. Si tous souhaitent se réunir pour reprendre la marche lancée par Meredith, ils s'opposent sur la méthode. D'un côté, les intégrationnistes favorables à la non-violence, de l'autre, avec en tête le tout jeune nouveau président du SNCC, le Comité de coordination non-violent des étudiants, Stockley Carmichael, qui veut utiliser l'autodéfense armée si besoin au cours de la marche. Ce sont finalement les seconds qui remportent la bataille. En opposition, les premiers ne participent pas. Quelques jours plus tard, Carmichael est arrêté à Greenwood. Devant une foule de 600 personnes, il s'écrie « Ce que nous allons commencer à dire maintenant, c'est pouvoir noir ». Et la foule reprend « Black Power, Black Power ». La nouvelle orientation de la lutte des Afro-Américains surgit médiatiquement. Quelques mois plus tard, en tournée en Europe, Carmichael explique sa différence de vue avec ses prédécesseurs.
Commençons par la période moderne. Je crois que tout a commencé en 1956 pour notre génération. C'est là que le docteur Martin Luther King a commencé à être connu. Dr. King avait décidé qu'à Montgomery, dans l'Alabama, le bus devait être au même prix pour les Noirs et pour les Blancs. Mais on devait s'asseoir à l'arrière. Et on n'y était autorisé que si les Blancs avaient tous un siège. Si un Blanc était debout, un Noir ne pouvait s'asseoir. Dr. King et ses associés ont déclaré « Ceci est inhumain. Nous allons boycotter votre système de bus. » Comprenons bien ce qu'est un boycott. Un boycott est une action passive. C'est l'action politique la plus passive que quelqu'un puisse entreprendre. Il croyait dur comme fer qu'en adoptant une attitude non violente et qu'en souffrant, L'opposant se rendrait compte de cette souffrance, ce qui l'inciterait à modifier sa façon de penser. Tout ceci est très bien, mais il s'est trompé sur un point. Pour que la non-violence fonctionne, votre opposant doit être doté d'une conscience, ce que les États-Unis n'ont pas.
Le slogan Black Power, lancé par Carmichael, ne passe pas inaperçu, évidemment. Pour de nombreux militants noirs des droits civiques, ainsi que pour les blancs, on y voit le reflet d'un racisme anti-blanc. Carmichael essaie alors d'adoucir son discours. Et Martin Luther King, lui, s'installe à Chicago pour réorienter la lutte vers le nord et sur le social. Pendant ce temps, les ghettos noirs continuent de se soulever. À l'été 1966, un an après Watts, ce sont autour des grandes villes industrielles du nord et du centre de s'embraser, Cleveland, Omaha, Chicago, partout ou presque. Le même schéma, bavure, émeute, pillage, affrontement, mort. À la sortie de l'été, un autre événement renforce l'impression de réorientation de la lutte des Afro-Américains. Le 15 octobre 1966, à Oakland, en Californie, deux anciens étudiants du Merritt College, Bobby Seale et Huey Newton, fondent le Black Panther Party for Self-Defense. La tactique choisie par le nouveau parti séduit rapidement les jeunes des ghettos. Habillés de cuir, tous des noirs vêtus, bérets vissés sur la tête et lunettes sombres, les milices des Black Panthers patrouillent dans les quartiers. Ils profitent d'une législation californienne qui permet de porter une arme si elle est visible pour arborer une allure militaire. Virilité, attitude spartiate, les Black Panthers font forte impression. Surtout là pour contrôler, prévenir d'éventuelles bavures, ils sont aussi et surtout acteurs sociaux. Ils lancent des programmes d'aide à destination des Noirs, par exemple. Organisé comme un gouvernement avec des ministres, le Black Panther Party veut imposer l'idée qu'il faut partager le pouvoir entre Noirs et Blancs sans attendre qu'ils viennent des Blancs. Alors, on relit Malcolm X mort en 1965, et puis des rapprochements ont lieu entre Carmichael et le nouveau parti de Seale et Newton. Et pendant ce temps, la violence s'accroît. À l'été 67, ce sont plus d'une centaine de villes qui connaissent des émeutes, au premier rang desquelles Détroit, dont le bilan humain dépasse celui de Watts avec 43 morts. Face à cette montée des violences, le Black Power, le Black Panther Party, créent des dissensions au sein du mouvement noir. Les non-violents les accusent de profiter et d'attiser la colère. Et le 4 avril 1968, un événement change tout.
L'assassinat de Martin Luther King est certainement la tragédie dont l'Amérique avait le moins besoin en ce moment. Que peut-il se passer maintenant? Eh bien, je crois qu'il peut simplement se passer des événements très regrettables que toute sa vie, Martin Luther King avait cherché à prévenir. Cet assassinat est une victoire pour les extrémistes, pas tellement pour les extrémistes blancs. Cet assassinat, en revanche, peut profiter aux Noirs qui, depuis quelques années, accusaient Martin Luther King d'être ce qu'on appelle aux États-Unis un oncle Tom, c'est-à-dire un Noir dévoué à la cause des Blancs.
Ce soir-là, comme tous les soirs depuis bientôt 5 ans, Isaac Hayes et David Porter, les deux ingénieurs du son du label Stax, sont dans leur studio de Memphis. Parfois, pour se détendre, après une rude journée, ils passent au Lorraine Hotel en face de l'avenue. Ce soir-là, c'est d'une toute autre manière que ce lieu surgit dans leur quotidien, car c'est dans ce motel que Martin Luther King est assassiné sur son balcon par James Earl Ray, un ségrégationniste blanc. Isaac Hayes et David Porter se précipitent dans l'avenue et déjà, une foule immense est rassemblée autour de l'hôtel. Une fois encore, le destin de Stax et de la cause noire américaine se croise, par hasard. La mort du pasteur crée une flambée de violence sans précédent dans toute l'Amérique. Elle provoque aussi un électrochoc, une flambée d'activisme étudiant noir et renforce le soutien au slogan lancé quelques années plus tôt par Carmichael, celui de Black Power. Il s'agit pour les Afro-Américains de se réapproprier leur histoire et leur identité, d'obtenir par eux-mêmes leur autonomie politique. Une volonté que l'on retrouve dans la culture. S'ouvre alors le temps du Black is Beautiful, de la mise en valeur des racines africaines du Black Arts Movement. Au cinéma, ce sera la Blaxploitation, avec notamment un héros, Shaft, détective noir à fière allure. Shaft, dont la bande originale est composée par Isaac Hayes, ce même Isaac Hayes qui était à quelques mètres de Martin Luther King le jour de sa mort, ce même Isaac Hayes qui clôture le show de Woodstock 5 ans plus tard, ce même Isaac Hayes annoncé comme une star par le révérend Jesse Jackson.
Il y a des consignes particulières quand Isaac Hayes arrive. Si une barrière est cassée, Isaac sera immédiatement emmené de la scène et ne sera pas autorisé à y revenir. Restez à vos places. Vous voulez voir Isaac Hayes ? Mes frères et sœurs, nous allons faire venir un mauvais. Mauvais. Je suis prédicateur, je ne peux pas le dire. Nous nous apprêtons à faire venir le frère que nous avons tous attendu. Celui que nous avons attendu. Un mauvais, mauvais frère, Isaac Hayes.
Et il est là, Isaac, avec sa taille de géant. Jesse Jackson lui ôte son chapeau. Alors, majestueux, il salue la foule. Et puis, il enlève la grande cape colorée qu'il porte pour laisser apparaître une tenue incroyable. Torse nu, recouvert de chaînes en or, qui rappelle évidemment celle de ses ancêtres esclaves. Et que cette fois, il l'arbore avec assurance et fierté. Ainsi, en une image, c'est tout le mouvement du Black Power versant culturel qui s'exprime. Reste alors à écouter la voix puissante de toute une génération.
Who's the black private dick? Sets the scene to all the chicks. Damn right.
Ce dimanche 20 août 1972, tout au long de ce concert d'exception, conclu en beauté par Isaac Hayes, organisateurs, spectateurs et chanteurs ont tenu à ce que tout se déroule au mieux dans le calme. Une manière de prouver aux autorités que le Black Power était et pouvait être pacifique. Car en 1972, les États-Unis sont présidés depuis 4 ans par le gouvernement républicain de Richard Nixon, dont le virage conservateur a répondu par la répression au phénomène d'émeute dans les ghettos. Une répression ciblée aussi et surtout contre les Black Panthers, désignée ennemi public numéro 1 par J. Edgar Hoover, le patron du FBI, provoquant scission, arrestation et fin du mouvement. Alors, ce dimanche 20 août 1972, c'est dans la paix et la musique teintée de revendications et de colère que plus de 100 000 Noirs du quartier de Waltz communient. 40 ans après, on entend encore leurs cris repris en chœur avec le révérend Jesse Jackson, quand aujourd'hui encore des Noirs américains meurent sous les balles de policiers blancs. Oui, on entend encore ce cri dont la puissance et ses résonances disent toute l'importance.
C'est pourquoi je vous mets au défi maintenant. Au défi de vous lever tous. De lever le poing. Et de réciter notre litanie noire nationale. Faites-le avec courage et détermination. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis peut-être pauvre. Mais je suis quelqu'un. Je touche peut-être une aide sociale. Mais je suis quelqu'un. Je n'ai peut-être pas de qualification, mais je suis quelqu'un. Je suis noir, magnifique, fier. Je dois être respecté. Je dois être protégé. Quelle heure est-il ? Tous ensemble. Quelle heure est-il ? L'heure de la nation. Quand on ne dit plus « Oui, monsieur patron, quelle heure ?» L'heure de la nation, quelle heure? Notre sœur Kim Weston, l'hymne national noir.
The Black National Anthem.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le World Summer Festival, dont la dimension politique, vous l'avez compris, est au moins aussi importante que la dimension artistique. Et nous allons en parler avec notre invitée Caroline Roland-Diamond. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, auteur du livre intitulé Black America, publié en 2016 aux éditions La Découverte. C'est un gros livre, hein, si vous voulez vraiment vous plonger dans cette histoire. Il y a tout ce qu'il faut avec ce livre qui fait 500 pages. Et alors, sur la quatrième de couverture, rassurez-vous, je n'ai pas lu que ça, hein, mais je vous le dis quand même, sur la quatrième de couverture, apparaît une formule très forte, puissante, vous l'utilisez, vous parlez d'apartheid américain.
Effectivement.
Apartheid. Le mot est fort, hein, c'est pour ça que...
Le mot est très fort, effectivement, il correspond à une description qui a été reprise par beaucoup d'Africains-Américains à l'époque, de ce ressenti d'une relégation sociale, d'une relégation politique tellement forte qu'ils pouvaient projeter sur leur propre situation, la situation qu'on connaît en Afrique du Sud.
Deuxième explication de mots, vous venez de dire africain-américain, moi j'ai dit afro-américain, vous écrivez aussi afro-américain, il y a un changement de terme.
Alors un changement de terme progressif, alors ça y est j'ai fait mon coming out dans l'adoption du terme africain-américain, qui correspond juste à une transposition donc française du terme anglais, African-American, qui est privilégié par les Noirs américains depuis maintenant bien 30-40 ans. Et donc, il n'y a pas de raison, en fait, finalement, en français, de continuer à utiliser l'ancien terme qu'on utilisait, nous, traditionnellement, d'afro-américain. Donc, par respect pour tout un processus qui est un processus de lutte, d'auto-identification, j'ai choisi maintenant d'utiliser le terme d'africain-américain, malgré sa lourdeur en français, surtout quand on le décline au féminin, au pluriel, africaines-américaines.
Effectivement.
Je pense qu'il est important de le faire.
Bien, alors, de 1965 à 1972, nous traversons une période singulière de la lutte des Africains-Américains. Seulement d'emblée, dans votre ouvrage, vous expliquez qu'il n'y a pas eu une rupture totale entre, d'un côté, une décennie qui aurait été pacifiste, et de l'autre, une décennie violente. C'est pour ça qu'on peut parler de glissement. Pouvez-vous nous parler de cette transition-là ?
Écoutez, le terme de glissement me paraît parfaitement bien choisi. Effectivement, quand on s'en tient à l'image qu'on a entendu à nouveau à l'antenne à l'instant, cette image de la violence de l'émeute de Watts, on a l'impression d'une rupture. On a en tête les images des manifestations pacifiste, non violente, menée par Martin Luther King, entre autres, dans la première moitié des années 60 et en remontant avant, deuxième moitié des années 50. Et puis là, on aurait tout d'un coup un changement, une rupture brutale, avec un basculement dans la violence.
Ce qui n'est pas le cas.
Or, depuis maintenant des années cela, toute une série d'historiens américains et européens qui s'intéressent à cette question ont mis en avant le fait que le Black Power, qui se manifeste notamment par les soulèvements urbains de Watts en 65, ce Black Power s'inscrit dans la lignée, une longue lignée de mobilisation des Noirs. Et donc, il n'y a pas de basculement brutal, mais véritablement un glissement de la lutte à orientation intégrationniste et non violente de la première partie, de la première phase, jusqu'en 1965, et puis à une lutte qui prend des formes nouvelles, qui manifeste une impatience et des formes nouvelles de mobilisation politique, parfois par un recours à des formes d'expression violentes. Et donc voilà, un glissement de l'un à l'autre graduel.
Et une réalité, c'est le plus important, mais il y a aussi une image. Hein, que jusqu'en 1975, on va voir les ghettos américains s'embraser chaque année de l'extérieur. On a vraiment l'impression d'assister à une guerre civile avec ces images de batailles, ces procès, ces arrestations, ces meurtres ciblés, donnant à l'Amérique l'image d'un pays violent dans les années 60, inquiétant même. Il y a eu l'assassinat de Kennedy, il y a eu celui de son frère, il y a eu celui de Martin Luther King. Enfin, je ne vais pas tout mélanger, mais c'est quand même dans ces années-là, les États-Unis renvoient une image de violence et donc d'échec de leur modèle.
Effectivement, l'image qui est sur tous les écrans de télévision, aux États-Unis comme dans le monde entier, est à cette période-là une des images surtout de violence. Que ça soit la violence de la guerre du Vietnam ou la violence intérieure dans ces soulèvements urbains, cet embrasement des quartiers noirs ou des violences avec la police et la série d'assassinats politiques qui marquent les années 60. Effectivement, donc derrière cette violence, on a un constat d'échec qui est l'échec du modèle d'intégration raciale dans une Amérique qui serait indifférente à la couleur de peau. Et c'est ce pourquoi les militants africains-américains, de longue date, qu'ils se soient plus identifiés à la mobilisation pacifiste, non-violente, intégrationniste de Martin Luther King ou du Black Power, c'était ce que ces militants revendiquaient depuis de très longue date, depuis les années 40, les années 50. C'était cette intégration réussie, totale, et non pas seulement sur le papier, avec véritablement une égalité des chances pour tous les Américains.
Alors, il y a aussi les Black Panthers. On va écouter Angela Davis, figure importante de ce mouvement, même la figure. Je rappelle le mouvement d'inspiration marxiste. Alors, elle a été emprisonnée et son procès en 72, évidemment, va cristalliser la cause d'Edouard. On entend une archive et on en parle ensemble après.
Because of the way this society is organized because of the violence that exists on the surface everywhere.
En raison de la façon dont cette société est organisée et de la violence présente partout, à tous les niveaux, il faut s'attendre à des débordements et des réactions démesurées. Imaginez que vous êtes noir. Vous avez toujours vécu dans la communauté noire, et tous les jours, en sortant de chez vous, des policiers blancs vous contrôlent. Quand je vivais à Los Angeles, bien avant qu'aient lieu les émeutes dans la ville, j'étais sans cesse arrêtée. Je n'étais pas connue de la police, mais j'étais une femme noire, et j'étais naturellement perçue comme une militante potentielle. Cette situation, c'était mon quotidien. Et maintenant, vous me demandez si oui ou non j'approuve la violence ? Cette question n'a vraiment aucun sens.
You ask me. I mean, that just doesn't make any sense at all.
Cette question n'a-t-elle aucun sens ?
La question n'a aucun sens. En effet, quand on est, c'est ce qu'elle raconte très bien, dans toute son éloquence, quand on grandit, quand on vit dans la communauté, dans une communauté africaine-américaine marginalisée, reléguée socialement, et qu'on est constamment confronté à la violence, en particulier de la police, un harcèlement policier quotidien, qu'il y ait une réponse violente d'Africains-Américains, la question n'a aucun sens.
Et que pense et que fait, et dans quelle situation se retrouve Martin Luther King dans ce bouillonnement-là, et qui bouillonne sur le principe de la violence, hein. Comment est-il, comment se positionne-t-il ?
Alors il est... Et on l'a rappelé dans le reportage. Il effectivement, quand il arrive pour sa visite, quand il débarque là sur le terrain, dans cette zone de guerre du quartier de Watts en 65, il est en partie hué par la foule. Mais en même temps, il est hué parce que cette foule de jeunes qui se sont révoltés, et de moins jeunes d'ailleurs, qui sont descendus dans les rues pour détruire leur quartier, cette foule ne se reconnaît pas dans le message gradualiste, intégrationniste, prôné par King.
Politique et qui demande donc du temps.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie comme ça entre le temps de la demande, de l'action rapide, parce qu'il y a urgence, et le temps politique qui est long.
Même si King lui-même demandait la liberté maintenant. Donc il avait,
il savait que ça allait être mis en place, ça devait être mis en place par un processus politique et que ça allait prendre du temps et que ce serait en décalage avec l'attente qui est synonyme d'urgence pour ces Noirs.
Exactement. Et lui, pour les jeunes Noirs qui descendent dans les rues de Watts, il y a un sentiment d'urgence, d'impatience et de ras-le-bol. Et donc ils s'en prennent à King qui symbolise cette autre mode de mobilisation il a beau ne pas être très vieux, il incarne une sorte de quand même de figure un peu plus paternelle pour le mouvement, et on s'en prend à lui pour ça. Mais c'est en partie injuste parce que King lui-même n'était pas du tout aussi modéré que l'image qui en a été faite, qui a été construite de lui même à cette époque. Et il faut se souvenir, on parlait de son assassinat dans le reportage, que King était tout à fait conscient dans les dernières années de sa vie, mais déjà avant, que le volet socio-économique était essentiel. Et qu'on ne pouvait pas avoir de véritable liberté si les Noirs n'obtenaient pas en même temps l'égalité économique et sociale. Et quand il est assassiné, il est descendu à Memphis. Après sa campagne de Chicago pour la liberté du logement, il est descendu à Memphis pour soutenir une grève des éboueurs de la ville.
Alors, je reviens quand même sur Angela Davis, on a fait un petit détour, mais je reviens sur elle parce que, d'abord, elle joue un rôle primordial dans la thématique générale, mais elle rappelle aussi peut-être le rôle qu'ont joué les femmes dans ce mouvement de lutte. Il était important, évidemment.
Alors, c'est ce que je me suis acharnée à montrer dans les 500 pages de mon livre, en partie, que, effectivement, les femmes africaines-américaines ont joué un rôle tout à fait primordial, mais souvent tombé dans les oubliettes de l'histoire, dans cette lutte pour l'égalité et la justice. Alors souvent on mentionne Rosa Parks et Angela Davis, et ce sont les deux seules figures féminines qui reviennent dans les discours. Or, il y avait évidemment des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de militantes, souvent anonymes ou connues, mais dont on n'a pas retenu le nom, qui se sont engagées au quotidien dans ces luttes pour l'égalité et la justice. Aussi bien dans la version intégrationniste, réformiste, que dans la version du Black Power.
Alors on aura compris que c'est une question aussi, c'est une question sociale, c'est une question de justice, c'est une question d'égalité, et c'est bien sûr une question identitaire. Et on va aborder le versant culturel de cette histoire. Après tout, c'est parti de là. Hein. Le Black Power, c'est aussi cette affirmation identitaire qui passe par la musique. Alors de ce point de vue, le label Stax joue un rôle important, à la fois symbolique et réel. Quel rôle joue-t-il selon vous?
Mais dans la mesure où il permet de promouvoir toute une série d'artistes qui arrivent là sur le devant de la scène et qui permettent de cristalliser à la fois le sentiment d'identification d'une partie de la communauté noire et puis un sentiment d'espoir de ces nouvelles stars africaines-américaines qui arrivent vraiment, qui subjuguent les foules à la fois noires bien sûr, mais pas uniquement.
Et non, vu que leur musique est de qualité, ça subjugue les blancs aussi,
voilà,
bien sûr.
Et donc ces stars, donc portées par le label Stax, mais on a aussi parlé du label Motown à la même époque, qui aussi met sur le devant de la scène toute une série de stars également. Et donc c'est tous ces musiciens, tous ces artistes jouent un rôle essentiel dans la lutte politique, dans la lutte identitaire, qui à ce moment-là donc prend ce visage du Black Power. Mais c'est déjà un rôle qu'ils ont joué de longue date pour aider la communauté africaine-américaine à avancer progressivement vers l'égalité et la justice. Et on peut remonter, donc d'ailleurs c'est ce qui est en partie les musiciens qui sont, et le style de musique qui est au concert de Watts Stax. On peut remonter au jazz, on peut remonter au blues des années 20, ou même avant. Et donc là on a des grandes figures, des grands noms de la musique nord-américaine qui, au-delà de leur performance artistique, portait un message politique de reconnaissance d'une égalité, mais d'une égalité non pas des Noirs qui allaient disparaître, se fondre dans la société américaine, mais la reconnaissance d'une identité spécifique, africaine-américaine, fondée sur l'histoire des Noirs.
Et adoptée par certains artistes blancs, on rappelle parmi les plus grands, les Rolling Stones par exemple, je pourrais en citer plein, la matrice de leur musique, c'est le blues. Et je parle de musique parce que je reviens sur le festival en lui-même de Woodstock. C'est un peu comme Woodstock pour vous, c'est un moment suspendu et tellement signifiant dans cette histoire-là. À la fois suspendu parce que on est dans une parenthèse enchantée aussi, hein. On n'est pas dans la violence, on est dans la musique et en même temps c'est extrêmement signifiant, extrêmement important. Alors, vous le voyez comme ça aussi?
Je le vois en partie comme ça. Je le vois en partie comme ça parce que le contexte n'est plus le même. Le contexte, bon, le Woodstock de 69 était donc voilà cette incarnation de l'utopie contre-culturelle dans toute sa splendeur. Donc voilà sur la côte est. Et puis là on a ce Woodstock qui est un festival effectivement de musique, de communion d'une communauté autour de la musique. Donc en ce sens, on peut dresser un parallèle. Mais là, le message est beaucoup plus politique, dans un contexte nettement plus défavorable à la communauté africaine-américaine. Et là, un caractère si défavorable qu'on ne peut pas comparer, effectivement, ce qui est arrivé aux hippies qui se sont rendus à Woodstock avec les difficultés profondes et les enjeux de la lutte des Noirs américains en 1972.
Voilà, mais c'est vrai que c'était tentant de parler de Woodstock, de la mesure où il y a une concentration de personnes qui viennent voir des musiciens les uns après les autres sur une scène dans un même endroit.
Absolument.
Mais ça tient que pour ça, on est d'accord. On est d'accord. Bien. Alors, on voit aujourd'hui que le problème noir, évidemment, est toujours d'actualité. On va écouter une archive. Il s'agit d'une représentante du nouveau mouvement des Black Lives Matter qui prononce un discours à New York. Alors, c'est vraiment tout récent, c'est en 2014.
Maman, papa, tonton, tata, quel que soit votre rôle, nous vous voulons du bon côté de la justice. Car si toutes les vies comptaient, nous n'aurions pas à préciser que les vies noires comptent. Je le répète, si toutes les vies comptaient vraiment, on n'aurait pas à dire que les vies noires comptent. Il y a une force oppressive dans la façon dont la justice se comporte avec les corps noirs depuis l'époque de l'esclavage. Ce n'est pas nouveau, mais nous continuons le combat de nos ancêtres et nous avançons. Et avec ce mouvement, nous voulons dire que toutes les vies noires comptent. Pas seulement toutes les vies, mais toutes les vies noires, hommes comme femmes. Regardez, toutes ces femmes réunies aujourd'hui pour protester contre les brutalités policières.
Vous voyez, on revient aux femmes. Hein.
Très bien, effectivement, ils sont à l'honneur dans le mouvement Black Lives Matter.
Ouais,
qui auraient dû être déjà à l'honneur avant,
Bon, quelques années après, on retombe sur le rôle des femmes important dans cette histoire. Alors, on s'aperçoit surtout que, je sais pas s'il faut dire rien n'a changé, mais enfin, ça s'est pas amélioré comme les Noirs l'auraient souhaité pendant toutes ces années. Et malgré l'élection d'Obama, comment expliquer la perpétuation de ces événements tragiques et de cette condition des Noirs?
Alors, vaste question en quelques instants. Mais effectivement, donc on a le mouvement Black Lives Matter a remis sur le devant de la scène la question de la persistance des inégalités raciales aux États-Unis, que certains avaient cru dépasser avec le symbole de l'élection d'Obama qui a donné un instant à croire dans le mythe d'une Amérique post-raciale. Mais ce qui est surtout clair, et ça, c'est pas complètement nouveau, c'est que au-delà de la question des violences policières, qui sont, et de la brutalité, et de ces meurtres, ces assassinats d'Africains-Américains par des policiers blancs, qui sont, dans l'immense majorité des cas, acquittés. Au-delà de ces questions de violence policière et d'injustice du système judiciaire américain, on a des problèmes d'inégalité économique et sociale, de relégation sociale, d'inégalité à l'emploi, d'inégalité dans le logement, d'inégalité scolaire, et donc qui se décline dans tous les indicateurs sociaux. Et ce problème-là est non seulement persistant, mais les inégalités raciales, après s'être réduites progressivement dans les années 50, 60 et au début des années 70, se sont creusées à nouveau dans un passé plus récent pour être à nouveau très 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 fortes aujourd'hui. Donc on a différents facteurs explicatifs non seulement de cette persistance, mais de ce retour en force des inégalités raciales. On est entré, et ça nous ramène au sujet de l'émission, au festival Woodstock. Depuis les années 70, on a une montée en puissance du mouvement conservateur aux États-Unis, qui va d'abord porter donc Richard Nixon, mais si on est en Californie, Ronald Reagan, d'abord, élu gouverneur de Californie.
En 66. Un an après. Hein. Et d'ailleurs, ces événements, il doit son élection, ces événements?
En grande partie, car ils sont le message qu'il a porté, qui était un message déjà de défense de la majorité silencieuse, était un message de retour de la loi et l'ordre. Retour de l'ordre, qui ensuite va le porter progressivement à la Maison-Blanche. Et à partir de là, on va avoir toute une mise en place de politiques très conservatrices, de démantèlement de politiques sociales et de guerre contre la drogue qui va donner un phénomène d'incarcération massive dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Donc on a un enchevêtrement de facteurs qui font que, effectivement, aujourd'hui encore, on est amené à parler des mêmes questions.
Ce « aujourd'hui encore » sera le mot de la fin, Caroline Roland-Diamond. Merci, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice » au 19e, 20e et, en notre siècle, le 21e siècle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le festival What's Stuck. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Éric Morin qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'affaire Battisti. Et puisqu'il me reste quelques secondes, que nous n'avons pas de spot publicitaire aujourd'hui, je vous précise qu'après demain, ça sera mercredi et que mercredi, nous continuerons notre exploration de l'histoire récente de l'Italie puisque nous aborderons le drame d'Aldo Moro, enlevé par les Brigades Rouges et assassiné en 1978. Vous écoutez France Inter, il est 16h.